France Culture pour l'heure, il est midi et demi. Le journal Antoine Mercier, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. La remise du rapport Spinetta en ce moment sur la refondation du modèle ferroviaire français qui envisage les conditions de l'ouverture à la concurrence, mais aussi une modification des statuts pour la SNCF et pour les cheminots. Précision de Maïwenn Bordron dans un instant. La réforme de l'assurance chômage également. Syndicats et patronats se retrouvent tout à l'heure pour une dernière séance de négociation. Il reste peu de temps pour trouver un compromis, notamment sur les fameux contrats courts, suivis des négociations avec Annabelle Grelier. La présidence de la République annonce la fermeture de la salle de presse de l'Élysée pour la déménager dans une annexe qui se trouve hors du palais. Et moi, chez les journalistes de la presse présidentielle, compte rendu avec Marc Potvin. Le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, dénonce une nouvelle calomnie ce matin après l'ouverture d'une enquête pour abus de faiblesse, le visant une femme qui l'accuse de lui avoir demandé des faveurs sexuelles en échange d'un logement lorsqu'il était maire de Tourcoing. À l'étranger, c'est la 18e fusillade en milieu scolaire aux États-Unis depuis le début de l'année seulement. Un jeune homme de 19 ans armé d'un fusil d'assaut qui ouvre le feu dans un lycée de Floride d'où il avait été renvoyé. Bilan 17 morts et de nombreux blessés. Précision de Nadine Epstein. Et puis le Parlement sud-africain qui s'apprête à élire Cyril Ramaphosa au poste de président de la République en remplacement donc de Jacob Zuma, démissionnaire hier au terme d'un long combat avec le Parti national africain, le Congrès national africain. Analyse avec Nabila Hamel, l'invité de la séquence interview, Jean-Marie Delarue, ancien contrôleur général des prisons et dans la dernière partie de la grande table,
Olivier Gisbert. Des Balkans à l'Afrique, en passant par le Proche-Orient, il a beaucoup bourlingué dans le cadre de ses activités de grand reporter, puis dans l'humanitaire. Il s'interroge aujourd'hui sur le poids des politiques mémorielles. Faut-il parfois envisager l'oubli pour pouvoir imaginer le futur autrement? On en parlera avec David Reif, notre invité essayiste américain.
Tout remettre sur la table, trouver un nouveau modèle économique. Le gouvernement poursuit donc sur le même mode et dans tous les secteurs à grande vitesse la transformation politique annoncée. Cette fois donc, cette transformation vise la SNCF. L'ancien patron d'Air France, Jean-Cyril Spinetta, remet en ce moment même au Premier ministre un rapport sur la refondation du modèle ferroviaire français et il envisage les conditions de l'ouverture à la concurrence d'une part, mais aussi une modification du statut des cheminots, ainsi d'ailleurs que du statut de l'entreprise publique elle-même. Un rapport qui contient d'abord un diagnostic et puis des propositions. Maïwenn Bordron, bonjour.
Bonjour Antoine.
On commence donc par le constat qui est fait dans ce rapport Spinetta.
Le système ferroviaire est en faillite, on ne vous l'apprend plus, la SNCF croule sous les dettes. SNCF Réseau qui gère les infrastructures, c'est 45 milliards d'euros de dette aujourd'hui. Une dette qui doit même dépasser les 50 milliards cette année. Autre constat, les petites lignes, elles sont coûteuses, elles ne sont pas rentables pour l'entreprise publique. Il faut donc trouver un autre modèle économique et rapidement, car le système ferroviaire français doit se préparer à l'ouverture de la concurrence prochainement et dès fin 2019 pour le TGV et 2023 pour les trains régionaux.
Alors voilà donc pour le constat et l'idée en vogue, en tout cas pour les propositions, c'est qu'il ne doit pas y avoir de tabou et notamment sur les fameux statuts.
Oui, certains parlent même de Big Bang dans le monde du train. Jean-Cyril Spinetta préconise a priori de transformer l'établissement public en société anonyme ou d'ouvrir par exemple le capital de SNCF Mobilité au privé pour renforcer sa compétitivité. C'est ce qui inquiète les cheminots car leur statut pourrait alors être supprimé pour les nouveaux embauchés, comme ça avait été par exemple le cas pour les salariés de La Poste. Le rapport doit également préciser les conditions de transfert du personnel aux éventuels concurrents de la SNCF. Autre piste évoquée, mais pour réduire la dette de la SNCF cette fois, l'État pourrait en reprendre une partie à condition que le régime de retraite des cheminots soit réformé. Le contenu du rapport Spinetta vient juste d'être officialisé. Le gouvernement devrait en tout cas s'appuyer sur certaines de ses propositions pour son projet de loi d'orientation sur les mobilités qui est prévu pour le printemps prochain.
Merci beaucoup Maïwenn Bordron. Et puis la SNCF doit pouvoir, selon ce rapport, recourir pendant 2 ans à des plans de départ volontaires. Il évoque donc la fin, vous l'avez dit, du statut des cheminots, en tout cas, à l'embauche. Parmi les réactions syndicales déjà anticipées ce matin, Sudrail qui affirme que ça peut mettre le feu à l'entreprise. Ces propositions signent la fin du ferroviaire. Éric Meyer sur France Inter ce matin.
Oh ben c'est la fin du service public ferroviaire. On le sent bien une atrophie des infrastructures. Hein. On va aller vers la suppression de 9000 km de lignes sur un peu plus de 35 000. On va aller sur un transfert des charges d'exploitation aux régions. Pour l'usager et pour le citoyen, on va avoir une baisse de la qualité de service et de la couverture du ferroviaire, une augmentation du prix du billet. C'est aussi la mise à mort du transport de marchandises par rail. Hein. Le contenu de ce rapport et la manière dont il sera exploité pourra forcément mettre le feu dans l'entreprise.
Éric Meyer, donc, de Sudrail, interrogé ce matin avant la remise qui est en train de se poursuivre de ce rapport Spinetta. Il y a un autre grand chantier du gouvernement qui est en cours, c'est la réforme de l'assurance chômage. Syndicats et patronats se retrouvent tout à l'heure. C'est la dernière séance de négociation. Il y a peu de temps, en fait, maintenant, pour trouver un compromis sur la question qui demeure controversée, épineuse, de ces contrats courts. Pour le reste, l'accord devrait se faire, peut-être, sur l'ouverture de l'indemnisation aux démissionnaires et aux indépendants. Annabelle Grelier, bonjour.
Bonjour Antoine.
C'était un des grands principes hein, d'ouvrir les droits au chômage à ces catégories de personnes. Mais il y a eu des conditions très restrictives qui semblent devoir être mises par le MEDEF.
Oui, l'indemnisation des démissionnaires est un bien grand mot, même si le patronat a accédé au fil des séances à diverses revendications syndicales. Plusieurs centrales réclament tout de même des critères d'éligibilité moins restrictifs qui feraient de la mesure une mesurette. Si, jugez par vous-même, si vous ajoutez un à un tous les critères, ancienneté minimum de l'entreprise, dans l'emploi, projet professionnel validé par une instance indépendante de Pôle emploi qui jugerait du sérieux du dit projet professionnel et le niveau d'études du démissionnaire, car le patronat refuse par exemple de permettre aux salariés les plus diplômés de bénéficier du dispositif. Eh bien cela finit par ne concerner plus grand monde. Et sur la question de l'indemnisation des indépendants, eh bien elle devrait être renvoyée au gouvernement, sauf en ce qui concerne les travailleurs indépendants économiquement dépendants, comme ceux des plateformes Uber ou Deliveroo, pour lesquels le patronat propose la création d'un groupe de travail qui rendrait les conclusions avant fin 2018.
Alors venons à ce point épineux dont on parlait tout à l'heure, les contrats courts. Le gouvernement a déjà menacé d'intervenir, notamment avec le bonus-malus, si les partenaires sociaux ne parviennent pas à s'entendre.
Oui, sur les contrats courts et le volet sanctions, en effet, il y a réellement casus belli entre le patronat et les syndicats. S'ils ont réussi à le faire bouger sur le périmètre, c'est-à-dire élargir à toutes les branches professionnelles et non plus seulement quelques secteurs d'activité, le patronat ne veut rien savoir quant aux sanctions qui pourraient accompagner ce dispositif de lutte contre le travail précaire. Des sanctions ou des incitations financières n'auraient aucun effet sur la précarité, leur a répondu le négociateur du MEDEF. Mais si le patronat n'entend pas raison sur les sanctions, la dernière séance de négociation risque de tourner court, préviennent les syndicats. Finir sur un désaccord unanime serait en effet de très mauvais effets à l'heure où Emmanuel Macron projette de changer la gouvernance de la négociation paritaire. Un scénario qui, selon le négociateur de la CFTC, ferait passer les partenaires sociaux pour des rigolos d'opérette et précipiterait la reprise en main du régime de l'assurance chômage par le gouvernement. Une reprise en main qui finalement ne semble pas déranger tant que ça le patronat. Dans un nouveau projet d'accord qui a été transmis donc dans la nuit au syndicat, le patronat se prononce pour une gouvernance rénovée autour, dit-il, d'une conférence pour l'emploi réunissant État et partenaires sociaux.
Annabelle Grelier, merci beaucoup. Les chiffres qui sont tombés ce matin, un recul du taux de chômage à la fin de l'année dernière, fin 2017, qui est passé sous la barre des 9%, donc au quatrième trimestre. Ce taux qui mesure le chômage au sens du Bureau international du travail enregistre son plus bas niveau depuis 2009. C'est une décision qui suscite un début de bronca dans le milieu des journalistes habitués à suivre les activités du président de la République. La présidence de la République annonce en effet la fermeture de la salle de presse qui est installée depuis 40 ans maintenant dans l'Élysée, pour la déménager dans une annexe qui se situe hors du palais, non loin de là. Officiellement, l'Élysée souhaite augmenter la taille de cette salle, mais aussi élargir le champ des accréditations permanentes. Marc Potvin, bonjour.
Bonjour Antoine. Dans
cette salle de presse, donc, installée à l'intérieur du palais, sous la présidence de Giscard. En 84, Mitterrand l'avait transférée sur la cour d'honneur dans un souci de transparence. Peut-être nous dire d'abord comment fonctionne cette salle, à quoi elle sert.
Eh bien, d'une part, il y a les journalistes des agences comme l'AFP ou Reuters. Eux ont accès en permanence à cette salle de presse. Elle dispose d'une vue imprenable sur la cour de l'Élysée, pratique pour voir qui entre dans le palais et qui en ressort en journée comme tard le soir. Les agenciers, comme on les appelle, ne sont pas les seuls à accéder à cette salle. Leurs confrères des radios, des télés ou encore de la presse écrite peuvent également s'y installer. C'est plus occasionnel lors des conseils des ministres, par exemple. Ce qui va changer, c'est donc les locaux. Ils doivent déménager de la cour d'honneur à une annexe située à proximité, mais en dehors du palais présidentiel, aux 4 rues de l'Élysée. D'après la la présidence, vous le disiez Antoine, ça permettra d'avoir plus de place. L'actuelle salle de presse est plutôt exiguë. Ouais,
un peu plus loin, mais un peu plus de place. Alors, annonce, décision en tout cas, qui devait se faire dans la concertation, mais qui a été annoncée un peu brutalement ce matin.
Oui, cette réunion d'hier à l'initiative de l'Élysée s'est tenue donc dans la matinée d'hier. Une réunion au lendemain d'une rencontre entre Emmanuel Macron et l'association de la presse présidentielle. La veille, le chef de l'État a expliqué que le déménagement va bien se faire. La raison invoquée, ce sont des travaux suggérés par la Cour des comptes. Mais Emmanuel Macron a été rassurant. Il a parlé d'un déménagement dans la concertation. Arrive donc cette réunion hier avec les services de presse de l'Élysée. Seuls les journalistes des agences sont conviés. Là, ils apprennent que le projet est déjà ficelé. Le déménagement devrait avoir lieu d'ici cet été.
Alors du coup, ça suscite un certain émoi chez les représentants de cette presse présidentielle que vous avez, dont vous avez pu joindre certains membres ce matin.
Ah oui, notamment chez les journalistes des agences, ils se disent surpris, choqués pour eux. Avoir une vue directe sur la cour de l'Élysée, c'est important, voire indispensable, notamment pour retranscrire l'ambiance qui règne au sein du palais. Ces journalistes dénoncent une décision qui va à l'encontre de la transparence. L'un d'entre eux se demande même si l'Élysée aurait quelque chose à cacher. Les échanges lors de la réunion d'hier ont été tendus. L'une des conseillères presse a lâché que le déménagement sonnait la fin des privilèges pour certains journalistes. En tout cas, ils ne comptent pas en rester là. Des actions sont prévues. Une lettre ouverte au président est évoquée, tout comme un boycott du compte-rendu du prochain Conseil des ministres.
Marc Potvin, merci beaucoup pour cette enquête. On salue l'invité de la séquence interview, Jean-Marie Delarue. Bonjour.
Bonjour à tous.
Bon, on va parler de la prison tout à l'heure et notamment du travail en prison pour le rapport que vous venez de rendre. Mais peut-être un mot là-dessus, parce que vous étiez venu à la Grande Table, c'était en juin dernier, je crois, pour nous défendre l'idée de la liberté qui n'apparaissait pas d'ailleurs dans les programmes des candidats. Bon, évidemment, on n'est pas là dans des mesures de sécurité dont vous parliez à l'époque, mais on est là dans un système peut-être qui pourrait porter atteinte à une certaine forme de liberté.
Alors moi, je ne veux pas me prononcer sur ce fait, mais je pense que... Et je crois aussi qu'il faut rénover la vie politique. C'était, je crois, ce que souhaitait le président de la République. Mais je crois qu'il faut la rénover par élargissement vers le bas et non pas par concentration vers le haut. Voilà. Donc, il faut que l'exécutif soit visible et transparent autant que possible. Tout n'est pas transparent, mais autant que possible. Et il faut surtout élargir la manière dont les citoyens s'intéressent et participent à cette vie politique.
Vous diriez présidentialisation accrue du régime de la Ve République ?
Le régime est très présidentiel depuis son origine, mais il le devient de plus en plus. Et ce n'est pas là une façon de rénover. Je crois que la France, il faut s'en souvenir, est quand même une exception dans les démocraties par la concentration de ses pouvoirs.
Jean-Marie Delarue, merci, on vous retrouve, vous restez avec nous pour la suite de cette édition. Gérald Darmanin dénonce ce matin une nouvelle calomnie. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics dénonce donc cette calomnie après une nouvelle enquête pour abus de faiblesse qui le vise à la suite d'une plainte d'une femme qui accuse donc le ministre de lui avoir demandé des faveurs sexuelles en échange d'un logement lorsqu'il était maire de Tourcoing. Ce matin, le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, rappelle la ligne choisie par le gouvernement et s'en remet notamment à la justice. On l'écoute.
Une mise en cause n'est pas une mise en examen, que la règle a été fixée par le Premier ministre et que quand on fixe une règle, on s'y tient. C'est la mise en examen qui justifie le départ du gouvernement et dans le cas d'espèce, la mise en cause qui a été celle révélée hier à l'encontre de Gérald Darmanin n'est pas une mise en examen. Il faut donc laisser la justice faire son travail. Il faut évidemment respecter la parole des plaignantes et les douleurs qui peuvent être... révélées dans ce cadre de ces mises en cause, mais elles ne valent pas mise en examen. Donc la règle, elle est simple, c'est le droit, rien que le droit.
Benjamin Griveaux, ce matin sur Sud Radio. C'est la 18e fusillade depuis le début de l'année en milieu scolaire aux États-Unis. Un jeune homme de 19 ans, armé d'un fusil d'assaut, ouvre le feu donc dans un lycée de Floride, d'où il avait été renvoyé. Le bilan est très lourd, 17 morts, de nombreux blessés. Le tireur s'appelle Nicolas Cruz et il avait précédemment fréquenté cet établissement, d'où il avait été exclu, notamment pour des raisons disciplinaires. Nadine Epstein.
Oui, ce jeune homme de 19 ans a ouvert le feu avec un de ses fusils d'assaut AR-15 semi-automatique.
asymptomatiques si répandues aux États-Unis. 12 personnes ont été tuées à l'intérieur de l'établissement, 2 juste devant, 1 dans la rue et 2 autres sont décédées de leurs blessures à l'hôpital. Au total, 17 morts, 13 blessés graves, dont 3 sont dans un état critique. Les fusillades aux États-Unis, premier pays où se déroulent autant de drames en milieu scolaire, au moins un par semaine, précise une organisation militant pour le durcissement des lois sur les armes individuelles, tandis qu'une autre organisation qui lutte contre la prolifération des armes à feu parle, elle, de 291 fusillades en milieu scolaire en 5 ans. Et à chaque fusillade relance obligatoirement la question du droit d'acheter et de posséder une arme à feu et la question de la légitimité, à quoi s'ajoute un autre débat, celui de sécuriser les établissements scolaires. Faut-il équiper les écoles de portiques de sécurité? Faut-il armer davantage les profs? Après chaque drame, les mêmes questions et rarement de réponses globales, même si quelques ajustements sont décidés, comme par exemple la multiplication des procédures d'alerte et d'exercices d'entraînement pour apprendre aux écoliers à réagir face à un individu tirant à l'aveuglette. Le FBI estime en effet que les fusillades en milieu scolaire sont les plus meurtrières et dans 70% des cas, l'irréparable est commis en 5 minutes, ce qui limiterait les possibilités d'intervention des forces de l'ordre.
Nadine Epstein, merci beaucoup. Jean-Marie Delarue, peut-être un commentaire sur ces fusillades à répétition et
oui,
très meurtrières.
Oui, parce qu'on ne peut pas s'y habituer de ces morts d'enfants. Mais je crois quand même qu'au-delà du problème de la législation sur les armes sur lequel se sont crispés les États-Unis et non que les larmes de Barack Obama n'ont pas su vaincre, il y a le recours à la violence de certaines sociétés. Je pense que les États-Unis sont inscrits depuis l'origine de leur histoire dans ce recours à la violence. Mais je pense aussi que il faut réfléchir à l'éducation qu'on donne à nos enfants. Est-ce que le fait d'être envoyé d'un lycée implique cette vengeance sur les élèves qui y sont restés? Moi, je crains beaucoup cette espèce de frustration chez nos jeunes gens. Alors, en France, on n'a pas la même législation sur les armes, mais on a aussi des frustrations de cette nature chez les jeunes. Et donc, je crois qu'il faut s'interroger aussi sur ce point.
Mais qu'est-ce que vous voulez viser particulièrement? C'est-à-dire, vous dites que c'est de...
Moi, je crois qu'il faut que les parents apprennent aux enfants à assumer leurs actes. C'est ça, l'éducation d'un enfant. Un enfant, on ne peut pas lui demander la même chose qu'un adulte. Mais il faut lui apprendre. Et parmi l'apprentissage, je crois qu'il faut dire que quand tu fais mal, eh bien, il y a des conséquences, quand tu fais bien d'ailleurs. Et donc, la conséquence d'une mauvaise conduite dans un établissement, c'est le renvoi. Bon, il faut assumer ça. Et donc, l'incapacité à assumer ça inquiète sur l'éducation qu'on donne aux enfants. Voilà ce que je veux dire.
Jean-Marie Delarue, merci. On vous retrouve dans quelques minutes. On évoque le dernier sujet. À l'étranger, le Parlement sud-africain, qui doit élire un nouveau président de la République tout à l'heure, au lendemain de la démission de Jacob Zuma au terme d'un très long combat avec le Congrès national africain, son parti éclaboussé, on le sait, depuis des années par des scandales de corruption. Monsieur Zuma a mis fin tard hier soir à son règne de 9 ans à la tête du pays en obtempérant finalement aux ordres de son parti qui le menaçait d'ailleurs d'un vote de défiance au Parlement. Sans surprise, l'ANC, qui dispose de la majorité absolue des sièges au Parlement, a confirmé ce matin que son chef, Cyril Ramaphosa, 65 ans, serait bien son candidat à la présidence du pays lors du vote qui est prévu maintenant dans un peu moins d'une heure et demie. Nabila Hamel, bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce la continuité ou est-ce qu'on peut parler quand même d'une nouvelle phase pour l'Afrique du Sud?
Il faudra attendre pour voir s'il s'agit vraiment d'un tournant important. Trop de casseroles, trop d'affaires de corruption avérées pour un président devenu impopulaire pouvait sérieusement nuire à l'ANC. Or, l'ANC a déjà essuyé quelques défaites lors de précédentes élections locales et veut d'abord éviter une catastrophe en 2019, année électorale avec un enjeu de taille. Le chef du parti est assuré de devenir le prochain président de la République si le parti au pouvoir remporte ses élections générales. Donc, il s'agit d'abord de montrer que le parti peut faire le ménage dans ses rangs et obtenir le départ du président. Le long cauchemar de l'Afrique du Sud est terminé, titrait ce matin le journal en ligne Daily Maverick. La fondation chargée de veiller sur l'héritage moral de Nelson Mandela parle de la fin d'une période douloureuse pour le pays. En tout cas, En devenant le tombeur de Jacob Zuma, Cyril Ramaphosa réalise un rêve qu'il caresse depuis 1999, car Nelson Mandela le présentait comme son fils préféré. L'enfant de Soweto est un ancien syndicaliste de l'époque de l'apartheid, devenu un riche homme d'affaires. Il avait gagné en décembre l'élection à la tête de l'ONC, avec un thème qui était la lutte contre la corruption. Allait-il s'arrêter à ce thème de campagne face à une opposition qui l'attend au tournant? Elle avait accusé cette opposition, Zuma, d'être un délinquant et estimait au passage que Cyril Ramaphosa a été un temps silencieux sur ses agissements. Celui qui va sous peu succéder à Zuma a récemment exclu tout passe-droit. Il avait récemment assuré que ceux qui sont corrompus et ont volé l'argent des pauvres seront jugés. Mais pourra-t-il aller jusqu'au bout face à un Zuma qui a encore quelques soutiens au sein de l'ANC?
Nabila Hamel, merci. 1h10, donc séquence interview avec Jean-Marie Delarue, ancien contrôleur général des prisons, que l'on reçoit pour un rapport sur le travail en prison. Camille Magnard.
Bonjour Jean-Marie Delarue.
Bonjour à tous.
Donc ce rapport à l'Institut Montaigne avec la Fondation M6, il s'intitule « Travail en prison, préparer vraiment l'avenir » et il s'ouvre sur un constat. Par exemple, j'ai appris en le lisant que le nombre de détenus qui travaillent depuis ces 10 dernières années a considérablement chuté. Seulement 30% peuvent avoir accès à un emploi rémunéré en prison.
Oui, on peut même penser qu'il y en a encore moins. Enfin, ça dépend des chiffres. Mais moi, je vais en publier aussi plus tard. Mais en tout cas, il y en a très peu. Le travail est un luxe. Et par conséquent, il faut sélectionner les détenus qui ont un travail. Voilà, c'est une sélection comme une autre.
Vous dites que une grande majorité des détenus veulent travailler en prison ?
Je pense que tous, pratiquement, veulent travailler en prison. Pourquoi ? Parce que le travail assure une espèce de maigre revenu. Et sans travail, il n'y a pas de revenu du tout. C'est la famille qui vous supporte, qui vous soutient. Par conséquent, la majorité des détenus, bien sûr, demandent qu'une chose, c'est travailler.
Qu'est-ce qu'il faudrait débloquer, finalement ?
Ah, il faut débloquer beaucoup de choses. Il faut que le travail soit plus intéressant. Il faut que le travail soit plus quantitativement plus important, et puis il faut enfin qu'il soit préparatif de l'avenir, c'est-à-dire porteur de qualifications professionnelles et de chances d'emploi à la sortie. Pour l'instant, on a un travail qui est fait pour la prison, qui ne ressemble pas du tout à notre travail à nous. Bon. Et donc il faut sortir de ce ghetto du travail.
Il y a dans Camille le constat Maillard. Aussi sur les conditions de travail, sur le droit du travail, on est loin de la manière dont ça se passe à l'extérieur. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ce qu'on demande à faire aux détenus et dans quelles conditions ils sont employés?
J'ai vu un jour en cellule à 11h du soir deux détenus qui assemblaient les deux petites branches de pince à linge avec le petit ressort au milieu. Ils faisaient ça pendant des heures. Ou autre exemple, c'était dans une maison d'arrêt du Sud, la préparation de petits emballages, pas les flacons, mais de petits emballages pour les échantillons de parfums distribués à l'époque de Noël dans les grands magasins. Bon. Donc c'est des choses qui ne sont absolument pas valorisantes. Et pour les détenus, le travail, ils le disent, c'est de l'occupation, c'est rien d'autre. C'est pas un apprentissage et c'est pas quelque chose qui est conforme à l'idée qu'ils se font de la dignité au travail.
Il y a un problème de l'offre au travail également en prison. Vous dites qu'il faut faire revenir les entreprises qui parfois ont peur de l'image que ça peut donner d'elles. C'est quoi les pistes pour faire revenir les entreprises en prison?
On a surtout des sous-traitants qui offrent ce type de travail que je viens de décrire. Et par conséquent, les grosses entreprises ont un petit peu peur de l'image que donne le travail en prison. La prison, ça ressemble à des gens un peu mal famés. Et puis, comme le travail est très mal payé, elles veulent pas être associées à cette espèce d'absence de droit du travail dont vous venez de parler. Alors, pour le faire venir, il faut faire beaucoup de choses. Mais je crois qu'il faut peser sur le genre de travail qu'on a, je viens de le dire. Il faut faire venir des entreprises d'insertion par l'économique, c'est rendu possible grâce à la législation actuelle et elle serait à leur aise là-dedans avec ce public si particulier qui n'a pas beaucoup de qualifications. Il faut qu'on développe le numérique, comme dit le rapport, dans ce monde du travail. Le numérique, ça occupe peu de place, c'est pas polluant et c'est valorisant pour les détenus. Et puis, il faut enfin qu'on revalorise l'image du travail et qu'on donne à l'administration pénitentiaire une sacrée impulsion pour s'occuper du travail.
Parce que votre démarche, c'est aussi de dire que vous parez, en tout cas, le travail en prison de beaucoup de vertus sur la diminution de la violence carcérale, sur la diminution aussi de la récidive. Ce sont des choses qui sont prouvées, peut-être pas en France, mais dans d'autres pays, que faire travailler plus les détenus en prison, ça résout ces problèmes-là.
tous les professionnels vous diront que lorsqu'il y a beaucoup de travail dans une prison, la prison s'en trouve évidemment apaisée. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes au travail, je l'ai dit, c'est source de revenus. Et quand vous avez un revenu, vous pouvez vous-même faire vos petites affaires. Petites affaires, c'est pas du trafic hein, que je mentionne. C'est acheter des choses en cantine, etc. Et donc, vous ne dépendez moins, vous dépendez moins des autres. Quand vous n'avez pas de revenus, vous dépendez complètement des autres. Et donc, vous êtes à la merci des caïds, etc. Donc, le travail, c'est l'apaisement. Mais le travail, c'est aussi préparer l'avenir. Mmh. Et quand vous trouvez à la porte de la prison que vous avez fait un travail idiot qui ne vous a apporté aucune qualification, il faut tout refaire. Quand c'est le contraire, quand le travail est qualifiant, vous avez des chances d'avoir un emploi.
Et qu'est-ce qu'on va vous dire aux chômeurs qui ne sont pas en prison, qui cherchent aussi un travail ?
Alors, j'entends votre question, mais j'en ai un petit peu marre, on va dire, on va être très grossier, excusez-moi, de ce discours qui consiste à dire ils ont fauté, donc qu'ils en bavent en prison, parce que c'est le meilleur moyen de favoriser la récidive, ça. Quand les gens se retrouvent le jour de la sortie sans rien, sans argent, sans qualification, sans travail, eh bien, ils recommencent, voilà. Et donc, travailler, c'est avoir l'espoir, en effet, qu'on va faire baisser, comme vous venez de le dire, la récidive.
Merci beaucoup, Jean-Marie Delarue. Donc, ce rapport, on le trouve...
On le trouve à l'Institut Montaigne, qui en a la paternité.
Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Camille Manière. Un temps variable cet après-midi. En tout cas, il y a l'installation progressive d'un redoux des températures de 6 à 18 degrés cet après-midi. Édition réalisée avec Yacine Bouzard. Et le prochain journal est à 18h avec Aurélie Kiffer.